Chapitre 16. Monsieur Gobie fait son compte-rendu. Monsieur Gobie entra dans le salon et prit place, comme l'y invitait Poirot, sur l'extrême bord de son fauteuil habituel. Il jeta un coup d'œil autour de lui avant de décider à quel meuble ou recoin précis il allait s'adresser. Il opta, ce n'était d'ailleurs pas la première fois, pour les fausses bûches électriques de la cheminée qui ne flamboyaient pas à cette époque de l'année. Nul n'avait jamais vu M. Gobie s'adresser directement à l'être humain pour lequel il travaillait. Il choisissait toujours la corniche d'une bibliothèque, un radiateur, un téléviseur, une horloge, quelquefois un tapis ou une carpette. Du porte-document qu'il tenait cramponné contre sa poitrine, il sortit quelques feuillets. « Eh bien, lança Hercule Poirot, qu'avez-vous glané pour moi ?»«
Diverses petites choses, » répondit sobrement M. Gobie.
Monsieur Gobie était adulé dans tout Londres, voire toute l'Angleterre, et peut-être même au-delà, pour ses étonnants talents de collecteur de renseignements en tout genre. Nul n'était jamais vraiment parvenu à comprendre comment il s'y prenait pour réaliser de tels miracles. Il employait un personnel assez réduit qu'il appelait « ses jambes ». Et même s'il lui arrivait désormais de se plaindre parfois de ce que les jambes en question n'étaient plus aussi efficaces que par le passé, les résultats qu'il obtenait laissaient toujours pantois d'admiration les clients qui les sollicitaient.
« Madame Burton Cox, » entonna-t-il comme l'aurait fait le bedeau de la paroisse une fois son tour de lecture venu. Il aurait tout aussi bien pu annoncer « Livre d'Ésaïe, chapitre 4, verset 3. »« Madame Burton Cox, » répéta-t-il, « mariée en première noce à Monsieur Cecil Aldbury. » Fabricant de boutons à l'échelle industrielle. Fortunée, elle se lança aussitôt dans la politique, fut élue membre de la Chambre des communes pour Little Stansmere. Monsieur Cecil Aldbury mourut dans un accident de voiture 4 ans après son mariage. L'unique enfant du ménage fut victime d'un accident peu après. Les biens de Monsieur Aldbury allèrent à sa femme, mais la déception de la susdite fut grande, car l'usine de boutons avait périclité. En outre, M. Aldbury léguait une somme assez considérable à une certaine Mademoiselle Kathleen Fenn, avec laquelle il entretenait, à l'insu de son épouse, des relations on ne peut plus étroites. Madame Burton Cox poursuivit néanmoins sa carrière politique. Quelques 3 ans plus tard, elle adopta l'enfant qu'avait eu Mademoiselle Kathleen Fenn, cette dernière affirmant qu'il s'agissait du fils de feu, M. Aldbury. Ce qui, compte tenu de ce que j'ai pu apprendre au cours de mes recherches, est plutôt sujet à caution, poursuivit M. Gobie d'un ton guindé. Mademoiselle Fenn cultivait en effet simultanément plusieurs relations similaires avec des messieurs enclins à la générosité. Mais cela dit, il y a tellement de gens disposés à se laisser acheter, n'est-ce pas? Je crains d'ailleurs d'avoir dans cet ordre d'idées une note tout à fait sérieuse à vous présenter. Poursuivez, éluda Hercule Poirot. Madame Aldbury, comme elle s'appelait alors, accepta d'adopter l'enfant. Peu après, elle épousa le capitaine Burton Cox. Mademoiselle Kathleen Fenn, dans l'entretemps, devint, je puis le préciser, une actrice et chanteuse de variété tout à fait en vue et gagna énormément d'argent. Elle écrivit alors à Madame Burton Cox pour lui dire qu'elle souhaitait reprendre son enfant. Madame Burton Cox refusa. Elle menait une existence aisée depuis, si j'ai bien compris, que le capitaine Burton Cox avait été tué en Malaisie, la laissant passablement nantie. Autre renseignement que j'ai obtenu, Mademoiselle Kathleen Fenn, qui mourut voilà très peu de temps, 1 an et demi, me semble-t-il, laissa un testament stipulant que l'intégralité de sa fortune, qui s'élevait alors à une somme considérable, devait aller à son fils naturel Desmond, désormais connu sous le nom de Desmond Burton Cox. « Très généreux, » commenta Poirot. « De quoi Mademoiselle Fenn mourut-elle ? » « D'après mon informateur, elle souffrait d'une leucémie. » Et le garçon a donc hérité l'argent de sa mère? Cet argent est placé en attendant le jour de ses 25 ans. Il sera donc indépendant et disposera d'une coquette fortune. Et Madame Burton Cox? Se livrer, d'après ce qui se colporte, à quelques investissements malheureux,
Elle a de quoi vivre, mais guère plus. »
Le jeune Desmond a-t-il rédigé un testament ? Demanda Poirot.
« Ça, déplora M. Gobby. J'ai bien peur de ne pas encore le savoir. Mais j'ai quelques pistes qui me permettront de tirer la chose au clair. Le cas échéant, je vous en informerai sans délai. »
M. Gobby prit congé, adressant aux fausses bûches éteintes une courbette d'adieu machinale. Environ une heure et demie plus tard, le téléphone sonna. Une feuille de papier devant lui, Hercule Poirot prenait des notes. De temps à autre, il fronçait les sourcils, tiraillait sa moustache, barrait quelques mots, réécrivait, puis poursuivait. Quand le téléphone sonna, il décrocha et écouta.
« Merci, » dit-il au bout de quelques instants. « Voilà du travail rapide. »«
Oui, oui, je vous en suis reconnaissant. »
« Je ne comprends vraiment pas, certaines fois, comment vous obtenez des résultats pareils. »«
Oui, cela définit clairement la situation. Cela donne un sens à quelque chose qui n'en avait pas jusque-là. »
« Oui, je comprends. »«
Oui, j'écoute. »«
Vous êtes bien sûr que c'est vraiment le cas ?»«
Ah, il sait qu'il est adopté, mais on ne lui a jamais dit qui était sa vraie mère. »«
D'accord. »
« Oui, je vois très bien. Vous allez également tirer au clair l'autre question. »«
Merci. »
Le détective reposa le combiné et se remit à écrire. Une demi-heure plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Poirot décrocha de rechef.
« Je rentre de Cheltenham, » annonça une voix que Poirot n'eut aucun mal à reconnaître.
« Ah, chère madame, vous voilà de retour. Vous avez vu madame Rosenthal ?»
« Oui, une femme charmante, tout à fait charmante. D'ailleurs, vous aviez parfaitement raison, vous savez, c'est bel et bien un éléphant de plus. »«
Qu'est-ce à dire, très chère madame ? » ?»«
Qu'elle se souvenait parfaitement de Molly Ravenscroft. » ?»«
Et se souvenait-elle aussi de ses perruques ?»«
Oui !»
La romancière exposa brièvement ce que la coiffeuse retraitée lui avait expliqué à propos des perruques.
« Bien, décréta Poirot, cela concorde. » C'est exactement ce que m'avait confié le superintendant Garroway concernant les quatre perruques que la police avait découvertes. Une bouclée, une dans le genre coiffure de soirée, et deux autres, plus simples. Quatre en tout.
Je ne vous ai donc rien appris que vous ne sachiez déjà ?
Si, vous m'avez appris un détail d'une importance capitale. Cette dame vous a dit, c'est ce que vous venez de m'expliquer, non ? Que Lady Ravenscroft avait voulu ajouter deux perruques supplémentaires aux deux qu'elle possédait déjà. Et ce, 3 à 6 semaines environ avant le drame des suicides.
Oui, c'est intéressant, n'est-ce pas ?
C'est au contraire tout ce qu'il y a de banal, rétorqua Madame Oliver. Voyons, vous savez à quel point les gens, les femmes, j'entends, sont capables d'abîmer leurs affaires, leurs perruques et le reste, pour peu qu'elles ne puissent être ni recoiffées ni lavées, qu'elles soient brûlées ou qu'on ait renversé je ne sais quoi dessus, il faut s'en procurer des neuves. Je ne vois pas ce qui vous enthousiasme là-dedans.
« Ça ne m'enthousiasme pas outre mesure, » répondit Poirot.
« Non, c'est un point de vue, mais le détail le plus intéressant est la précision que vous venez d'ajouter. C'est une demoiselle française, n'est-ce pas, qui apporta les perruques qui devaient être copiées ou assorties ?»«
Oui, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une sorte de dame de compagnie. Lady Ravenscroft avait fait ou faisait un séjour dans un hôpital ou une maison de repos et n'était pas en très bonne santé. » Elle ne pouvait donc pas venir faire son choix en personne.
« Je vois. »
« Ce fut donc sa dame de compagnie française qui s'en chargea. »«
Savez-vous comment s'appelait la dame de compagnie en question, par hasard ?»«
Non, il ne me semble pas que Madame Rosenthal ait mentionné le nom. En fait, je ne crois pas qu'elle le connaissait.
Le rendez-vous avait été pris par Lady Ravenscroft, si bien que cette personne se contenta d'apporter les perruques pour en faire voir la taille, assortir les couleurs et tout ce qui s'ensuit.
« Ma foi, » enchaîna Poirot, « voilà qui m'avance en direction de la dernière étape que je m'apprête à franchir. »
« Et vous, avez-vous appris du nouveau ?» répliqua Madame Oliver. « Avez-vous agi de quelque manière que ce soit ?»
« Vous faites toujours, en ce qui me concerne, preuve d'un tel scepticisme, » gémit Poirot. « Vous considérez toujours que je ne fais rien, que je reste dans mon fauteuil à me reposer. »«
Disons, à l'extrême rigueur, que vous restez dans votre fauteuil à réfléchir, » concéda Madame Oliver. « Mais, j'en conviens à regret, vous ne sortez pas souvent pour passer à l'action. »
« Il se peut, je crois, que dans un avenir proche, je sois amené à sortir pour passer, comme vous dites, à l'action, » répliqua Poirot.
Cela devrait vous satisfaire. Il se peut même que je me hasarde à traverser la Manche, quoique sûrement pas en bateau. L'avion s'impose, je crois.
Ah ! Fit Madame Oliver. Voulez-vous que je vous accompagne ?
Non, répondit Poirot. Il vaudrait mieux, d'après moi, que je voyage seul, pour cette fois.
Vous allez vraiment effectuer ce voyage ?
Oh oui ! Oh que oui ! Je vais me démener en tous sens, m'affairer, et vous devriez, un de ces prochains jours, être légitimement fier de moi, madame.
Une fois qu'il eut raccroché, Poirot composa un nouveau numéro qu'il avait noté et rangé dans son portefeuille.
On lui passa bientôt la personne à laquelle il souhaitait parler.
« Mon cher superintendant Garraway, c'est Hercule Poirot qui vous parle. Je ne vous importune pas trop. Vous n'êtes pas trop pris en ce moment ?»«
Non, je ne suis pas pris, » répondit le superintendant. « Je suis en train de tailler mes rosiers, tout simplement. »«
Il y a un détail sur lequel je voudrais vous interroger, une toute petite chose. »
« Concernant notre énigme du double suicide ?»«
Oui, notre énigme. Vous disiez qu'il y avait un chien dans la maison, et vous disiez que ce chien accompagnait d'ordinaire les membres de la famille en promenade. »«
En effet, il a été question d'un chien. Quelqu'un, la gouvernante, je crois bien, affirma que les Ravenscroft étaient partis en promenade ce jour-là, accompagnés du chien.
À l'examen du corps de Lady Ravenscroft, retrouva-t-on une quelconque trace révélant qu'elle se serait fait mordre par ce chien ?
Trace pas nécessairement très récente, ni du jour même.
Ma foi, c'est curieux que vous mentionniez cela. Je ne peux pas prétendre que je me serais souvenu d'un détail pareil si vous n'en aviez pas reparlé. Cela dit, oui, il y avait une ou deux traces de morsure.
Pas très grave.
Qui plus est, la gouvernante précisa que le chien avait agressé et mordu sa maîtresse à plus d'une reprise, quoique sans réelle gravité.
Écoutez, Poirot, il n'y avait pas de cas de rage dans les environs, si c'est à ça que vous pensez.
Je ne vois pas ce que vous allez chercher là. Après tout, Lady Ravenscroft a été abattue par balle. Son mari et elle l'ont été par balle. Il n'a jamais été question ni du moindre empoisonnement sanguin, ni du moindre risque de tétanos.
« Je n'accuse pas le chien, » protesta Poirot. « Je voulais simplement savoir. »
L'une des morsures était assez récente. Elle datait de la semaine précédente, me semble-t-il, voire de deux semaines, d'après ce qu'en a dit quelqu'un. Elle ne nécessita aucune intervention médicale et cicatrisa très bien.
« Que disait cette citation, déjà ?» reprit le superintendant Garraway.
« Ce fut le chien qui en mourut. »
« Je ne me souviens plus d'où elle est tirée, mais... »«
En tout cas, ce ne fut pas le chien qui mourut, » riposta Poirot. « Mais ce n'était pas le but de ma question. J'aurais bien voulu le connaître, ce chien. C'était sans doute un animal très intelligent. » Quand, après avoir remercié le superintendant, il eut reposé le combiné, Poirot se prit à murmurer.
« Un chien intelligent. Oh oui, très intelligent. »
Sans doute bien plus intelligent que ne le furent tous ces messieurs de la police.